Le devoir des pouvoirs publics, c'est d'exiger de Sanofi Aventis France et des entreprises du médicament qu'ils respectent leurs engagements en matière de maîtrise de dépenses de santé, du bon usage du médicament et du droit à l'information pour l'ensemble du corps médical sur l'ensemble du territoire. Rien dans la situation économique actuelle de l'entreprise ne justifie ces suppressions d'emplois. Nous nous opposerons à tout licenciement. Merci de transmettre ce message qui est important pour les salariés de Sanofi Aventis France.
Bonjour Jean-Luc. Ouais, voilà, je voulais réagir. Je viens d'entendre les infos de 15h, là, juste avant ton émission, Daniel. Et, donc, on nous dit que l'État vient de réinjecter 6 milliards dans Dexia et que son gentil patron vient de démissionner et va toucher 2 ans de salaire, soit 4 millions d'euros. Ah, qui n'a peut-être rien. C'est pas sa faute non plus. Il va falloir qu'on s'occupe de lui. Allez, à bientôt. C'est révoltant.
Bonjour à tous. Voilà, c'était un petit message au sujet de l'émission du mardi 30 septembre. C'est Mathieu, faiseur d'histoire entre le Lot et Paris. Je voulais vraiment féliciter toute l'équipe de Là-bas si j'y suis et particulièrement féliciter le professeur Lordon pour son exposé d'une clarté rare en ces temps difficiles pour l'économie financiarisée. Voilà, je voulais juste exprimer un souhait, ce serait de savoir si une autre émission pouvait continuer finalement ce débat. Et notamment, on a beaucoup parlé du recul des politiques publiques pour laisser place à la financiarisation privée. Et je me disais qu'il serait peut-être intéressant de comprendre les mécanismes du recul du pouvoir public en matière d'économie et comment finalement, au fil du temps, les banques, les assurances privées ont pris autant d'importance et nous conduisent aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Voilà, à bientôt et bis à Daniel. Ciao.
Juste quelques nouvelles de mon Plouquistan nucléarisé. Je veux parler du Cotentin, là-haut, en Normandie. Le chantier de l'EPR et de la THT, ce n'est pas le chantier de la démocratie. À Flamanville, ils ont du retard, cadence infernale, intérimaire, et un béton mal ferraillé qui est obligé de suspendre les travaux pendant plusieurs semaines au printemps dernier. Il faut que tout soit prêt en 2011. Et puis derrière l'EPR, il y a le bocage et des plouques qui y vivent et qui y tiennent, parce que le bocage c'est beau, et parce qu'on ne veut pas des câbles de 400 000 volts qui donnent mal à la tête et aux gens et aux bêtes pour transporter la précieuse électricité bien loin d'ici. Ici, on en a marre des retombées du nucléaire. La radioactivité, les déchets, les sites massacrés, risques et bas salaires sur les chantiers, la pollution symbolique et surtout les retombées financières du nucléaire. Pour faire passer ses pylônes et ses câbles, RTE sort son carnet de chèques et le préfet attaque en justice les maires qui résistent. Mermé, ramène tes micros par ici, ça urge. Philippe de Caen, en Normandie.
Oui, bonjour à toute l'équipe, c'est Geoffrey de la région Centre. C'était juste pour réagir à l'émission, petit témoignage. Moi, il y a 3-4 ans, j'étais chargé par un prestataire de service pour lequel j'étais en apprentissage de remplir sur un logiciel toutes les dosimétries du personnel travaillant sur une centrale nucléaire. Personnel qui n'était pas trop exposé apparemment. Sauf que j'ai rempli des dosimétries qui dataient d'il y a plus d'un an. Donc c'est juste pour témoigner du sérieux de relevé des doses de ces personnels prestataires. Voilà, voilà. Ça me donne un peu une idée du sérieux qui est fait là-bas. Merci, au revoir.
Oui, je suis comme toi, Daniel. Je suis comme toi. Tantôt, je me dis, ce monde est vraiment pourri et il faut le changer radicalement, c'est-à-dire à la racine. Puis d'autres fois, je me dis, il faut arriver à le faire fonctionner avec un minimum de règles. Comment résoudre cette contradiction qui consiste à être à la fois antisocial et socialiste, entre guillemets. Socialiste dans le sens de celui qui croit que la politique consiste à faire passer l'intérêt général avant les intérêts particuliers. Et socialiste, dans ce cas-là, repose sur un État fort et s'oppose au libéralisme. Parce que le socialisme part du principe que Le libéralisme, c'est l'absence totale de règles et qui finit par desservir les plus faibles. C'est la loi du plus fort, le libéralisme. Alors on oppose à ça une organisation bien structurée, avec des institutions fortes, et puis on s'aperçoit qu'en fait ça revient au même. C'est-à-dire que même dans le cadre des institutions, ce sont toujours les plus faibles qui te font baiser. La justice, la politique, les tenants du savoir, les universitaires, les penseurs, les spécialistes, eh bien, elles forment à nouveau un clivage entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien. Et les petits, ils se font baiser à tous les coups, que ce soit dans le libéralisme ou dans le socialisme. Alors c'est préoccupant, hein. Comment faire? Voilà. Voilà ce que je voulais te dire, Daniel. Donc ça pose des problèmes. Hein. Comment faire à nouveau de la politique en contournant cet obstacle ou en le surmontant? Ça me rappelle cette phrase de Montaigne. Les lois se maintiennent en crédit, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois.
Ah, merci Claude pour cette analyse fine et merci à tous pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, auditrices modestes et géniales. Aujourd'hui, touche pas à ma poste. Un récent sondage indique que 61% des Françaises et des Français sont opposés à la privatisation de la poste. Je viens d'employer deux fois le mot privatisation, c'est le mot qu'il ne faut pas employer. Il s'agit, à plus ou moins long terme, selon un calendrier qui s'allonge visiblement, d'ouvrir le capital. Vous voyez, il ne faut pas confondre privatiser et ouvrir le capital. Vous êtes tellement niais et tellement ignorant de toutes ces choses, et tellement archaïque, et puis nous tellement populistes que... voilà, il ne faut pas employer le mot privatisation. Ça va être très difficile pour ceux qui ont cette tâche de nous convaincre, de vous convaincre qu'il faut absolument ouvrir le capital de la poste par les temps qui courent. Par les temps qui courent où l'économie financiarisée serait un petit peu sous les feux de la critique, une sorte de critique à travers le monde, y compris à travers l'Europe. Et il se pourrait bien que cette crise dézingue la belle unité, en tout cas certains aspects du traité de Maastricht. Tout ça est passionnant, consternant et donne amèrement raison à ceux qui depuis des années et des années, archaïques et populistes qu'ils sont, dénoncent cette économie financiarisée. La poste y passera-t-elle à son tour ? Aujourd'hui, avec Renaud Lambert, on va voir que depuis longtemps, cette privatisation, parce que c'est le terme qu'on va employer, est bel et bien en cours. Privatisation, pas tout à fait, mais commercialisation. Comment, de l'intérieur même de la poste, on tente, avec acharnement, avec entêtement, à faire basculer une culture, celle du service public, celle du service public de la poste. Comment, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, comment on lui colle la rage, comment... Vous allez voir tout ça avec Renaud jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonsoir, c'est Laurence de Rouen. Je téléphonais parce que l'émission sur le nucléaire de ce jeudi 1er octobre m'a beaucoup fait réagir. Car habitant la Normandie, je puis vous dire que le nucléaire, c'est quelque chose de très important. Mais j'ai un ami qui était à la SNCF et le médecin du nucléaire et le médecin SNCF, même langue de bois. C'est-à-dire que quand on a de l'amiante mais qu'on n'est pas trop exposé, on met le dossier à la poubelle. Et ben, je pense que le médecin du nucléaire, elle a beau être assermenté, je pense que c'est un bon serment d'hypocrite à la place d'Hippocrate.
Avis à la population poitevine, notre bonne ville de Poitiers, enrichit son patrimoine, et oui, ouverture d'un repère, là-bas si j'y suis, à Poitiers. Donc l'inauguration se fera avec le film Manif de droite, donc tout frais sorti, et qui j'espère sera suivi par beaucoup d'autres. Ça se passe vendredi au Saint-Paul-de-Vence, donc vendredi 3, là, vendredi prochain, demain. vendredi 3 octobre au Saint-Paul-de-Vence, place Montier-Neuf. Voilà. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Le repère de Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, se tiendra mercredi 8 octobre à partir de 18h30 à la pizzeria rue Piétonne, 14 rue du Capitaine Dreyfus, dans la salle qui nous est réservée par le patron. Ciao.
Nous allons confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien, aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Touche pas à ma poste.
Flight number 2, arriving from...
Christian Causard, ancien directeur général délégué de la Poste.
Le monde a changé, et le monde change. Si la Poste ne change pas, bah, quelque part, nous allons devenir un musée.
Danny Boone, comique, auteur du film Bienvenue chez les Ch'tis.
La Poste! Mais la Poste, mais rien que la pub de la Poste!
Bougez avec la Poste!
Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste,
ah!
S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la Poste!
Parmi les critiques les plus fréquentes du public, c'est le temps d'attente au guichet qui arrive en premier. Fabien Chadeau et Antoine Armand.
Un bureau de poste à Arcachon, c'est comme partout ailleurs en France, il faut patienter. Patienter pour accéder au guichet.
Ça m'est déjà arrivé d'attendre trois quarts d'heure. Alors pour retirer deux recommandés que quelqu'un a eu la mauvaise idée de vous envoyer par recommandé, c'est franchement désagréable.
La Poste, rappelée à ses devoirs alors que l'entreprise devrait se transformer en société anonyme début 2009.
À la Poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas. C'est eux qui l'ont inventé, la queue qui n'avance pas, et après ils ont été copiés par tous les services publics. Et il y a une explication à ça. C'est qu'à la Poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a un et demi d'ouvert.
Mais alors, ils veulent privatiser, mais personne n'achètera, même pas eux.
Voilà, Danny Boone, le gentil, le bon, le merveilleux Danny Boone en militant anti-service public. Et puis auparavant, vous ne le raterez pas, j'espère, tout au cours de cette émission, c'est Christian Causard, ex-capitaine dans l'armée de terre, ancien cadre supérieur d'Air France et de Canal+, et ancien directeur général de la Poste, qui va nous ravir de ses conseils et de ses déclarations au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. C'est l'ancien directeur général délégué de la Poste. Je dis ancien parce que ce que nous évoquons et cherchons à éviter aussi aujourd'hui, c'est cette foutue privatisation, même si depuis des années, les gouvernements successifs n'ont cessé d'accélérer la privatisation rampante de la Poste, la recherche de la rentabilité, à tout prix, on va l'entendre et l'avoir, c'est traduite par la fermeture de milliers de bureaux de poste, on en a parlé assez fréquemment dans la basse j'y suis, la réduction des effectifs et l'allongement des queues. Voilà, Danny Boone, la raison de l'allongement des queues devant les guichets, la précarisation croissante des personnels, près de la moitié des salariés de la Poste n'a déjà plus le statut de fonctionnaire. Le gouvernement veut aller plus loin. Après l'ouverture à la concurrence, la Poste devrait désormais changer de statut. C'est le préalable à l'ouverture du capital et à une privatisation pure et simple. Ainsi s'expriment les épouvantables gauchistes néo-staliniens du NPA, nouveau parti anticapitaliste, à la tête duquel on observe un fameux facteur. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéressait le camarade de Renaud Lambert, c'est cette privatisation rampante, cette commercialisation qui a préfiguré, qui, je le disais en commençant, cherche à nous faire basculer, à faire changer notre culture, notre rapport à la poste, rapport ancien, la voix de Gabin nous le rappelait, le temps des PTT. Eh bien, c'est ça qui est en cours de changement. Qui a eu l'idée? Quels sont les architectes? Quels sont les acteurs? Quels sont les militants et les majorettes de ce grand bouleversement? Le mystère restera entier au cours de cette heure. Mais les effets, vous allez les voir et les vivre. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas. Si j'y suis, touche pas à ma poste.
Après une prise votre ticket pour accéder jusqu'au fichier, il faut l'arracher de la machine accrochée juste à gauche après l'entrée. Allez vous asseoir avec les autres sur les beaux sièges en plastoc. Sur le ticket, un numéro qui s'affichera sur le panneau. Sur le panneau, il faut fixer, faut pas se rater. Et voilà, oh, c'est comme ça.
Et voilà,
oh, c'est comme ça. De vous déplacer, attrapez le combiné. Veuillez patienter, votre correspondant est occupé. Vous êtes en relation avec le service demandé. Chaque solution va vous être énumérée. On va vous aiguiller pour mieux vous diriger. Veuillez faire votre choix, confirmez-le avec la croix. Tapez 1 pour ceci, tapez 2 pour cela. Ton code est érolé, il n'est pas reconnu. Ton temps est écoulé, tu repars au menu. La ligne est coupée, t'as trop attendu. Tu connais la chanson, il faudra rappeler. Il s'étonne de ton insurrection, de ton envie de destruction, en te laissant dans la confusion. C'est quelques mots et des échantillons. Et je tourne, encore un tour pour rien dans le rond-point. Et j'attends, je désespère, qu'on me tende la main. La 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 la.
Philippe Fouillou, délégué syndical à Sud PTT.
Je pense personnellement qu'il y a une véritable volonté politique de créer, de désorganiser la Poste en tant que telle. Donc l'objectif était d'arriver à organiser ou désorganiser la Poste volontairement, présenter un service qui ne fonctionne pas, de manière à mener le public à justifier ce que ses dirigeants ont déjà préparé il y a plusieurs années. C'est-à-dire l'idée de privatiser la Poste, c'est ça la logique. Sauf qu'on sait très bien dans les pays où ça a été privatisé, ils sont obligés de revenir sur des privatisations parce que ça fonctionne encore moins. Et c'est encore plus cher.
Eh oui, si l'on observe ce qui se passe dans les pays où la Commission européenne a réussi avec ses injonctions à la privatisation de la Poste, en Allemagne par exemple, eh bien le nombre de points de contact va passer en 20 ans de 30 000 à 5 000. En Suède par exemple, eh bien la privatisation a entraîné 25% des effectifs en moins dans les postes suédoises et 70% d'augmentation des tarifs. Et bien évidemment, vous avez compris, c'est simple maintenant, on a compris quand même. Les marchés financiers veulent se faire du fric avec la Poste comme avec le reste. C'est simple, c'est clair, c'est direct et on en voit aujourd'hui les résultats à travers le monde. Là, ça devient planétaire. Eh bien, quand même, malgré l'opinion publique qui quand même voit le vent venir, je le rappelle à 61%, un sondage récent CSA publié dans le quotidien L'Humanité indiquait que vous êtes, en tout cas les Français, l'opinion française est opposée à cette privatisation, même si on l'a compris, le mot ne doit pas être prononcé. On est avec Philippe Fouillou de Sud PTT.
Bon, alors, on parle de privatisation de la Poste. Enfin, certains parlent de privatisation de la Poste. On sait que le président de la Poste, Bailly, et le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, disent non, on privatise pas du tout. C'est un truc qui vient de tomber, c'est récent, cette affaire?
Alors, il faut savoir que la privatisation, en fin de compte, c'est, pour être plus clair, ça serait, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Il faut comprendre que ça fait au moins 15 ou 20 ans que la privatisation est en marche. dans les bureaux de poste, concrètement, comment ça se passe depuis 15 ou 20 ans, il a fallu transformer, en fin de compte, l'usager en client, transformer le guichetier en vendeur, introduire aussi la notion de chiffre d'affaires, parce que bon, la réalité de la privatisation, on l'a bien compris, c'est de présenter quand même aux futurs investisseurs un bilan aussi bien financier, comptable que humain, le plus acceptable possible.
On essaye de rendre la mariée aussi belle que possible pour que les investisseurs privés la trouvent vraiment, vraiment désirable.
Tout à fait, c'est ça l'objectif, il est là.
Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples les plus concrets possibles de ce à quoi on peut déceler ces évolutions que vous présentez, que vous dénoncez, quand, par exemple, eh bien, on arrive dans un bureau de poste pour faire une opération?
Alors, concrètement, je vais prendre le cas d'un bureau de poste qui est parisien, qui se trouve dans le 16e arrondissement, qui est le bureau central de l'arrondissement, qui est un bureau de poste actuellement qui est en rénovation. Et dans l'entrée du bureau de poste, il est prévu de mettre une boutique. Alors la boutique, ça fait 3-4 ans qu'on nous sort la boutique régulièrement dans tous les bureaux de poste maintenant, puisque c'est la priorité de la poste. C'est cet espace-là qui est prioritaire, avant les guichets d'auto-opération. Et donc dans ce bureau de poste, la configuration est faite de telle manière à ce que lorsque l'usager rentre, il est pris dans une sorte d'entonnoir par tous les rayonnages de la boutique, hein, qui cache en plus les guichets qui sont juste derrière, c'est-à-dire que l'usager rentrant ne voit pas les guichets toute opération, il se trouve pris par ces rayonnages qui lui proposent un tas de produits naturellement à valeur ajoutée et autres services qui n'ont rien à voir avec la poste, comme des cordes à sauter il y a quelque temps, comme des stylos à parfumer, etc. Donc il se retrouve pris dans cet entonnoir-là, et en plus de ça, il y a un responsable, ce que la poste appelle un responsable client, qui est là en plus de ça pour essayer naturellement de le maintenir dans cet entonnoir, pour essayer de le maintenir sur une logique d'achat qui serait celui d'un produit à valeur ajoutée. Il faut savoir que les bureaux de poste ont actuellement ce qu'ils appellent un IGP, c'est un indice général de performance qui est basé sur la capacité à générer des marges bénéficiaires, ce qu'ils appellent, globalement, voilà.
À ses millions de clients quotidiens, la Poste a décidé d'offrir un environnement contemporain qui répond à leurs attentes en matière de services de proximité. C'est la naissance d'une nouvelle génération de bureaux de poste.
Vous savez pas qu'on vendait des trucs comme ça, la Poste? C'est quoi ça, des suspensions Pinocchio, c'est des petites marionnettes, quoi, c'est
oui,
ça?
Oui, alors je sais pas trop à quoi ça sert.
Mais... Là, il y a des livres bien cuisinés, Tentation Secrète. Le potage plaisir, des petits crayons, c'est ça?
Des petits DVD, CD, des petits livres. Vous n'avez plus qu'à acheter.
J'ai même des gilets de sécurité.
Oh si, ça vous intéresse?
C'est quoi le rapport avec la Poste?
Okay.
Ah oui, là.
On m'en vend de tout, hein. Vous avez bien vu, regardez.
C'est quoi, bonjour?
Oui, je suis bien au partenariat?
Oui.
Bonjour, madame.
Bonjour.
C'est monsieur Lambert, là, pareil.
Oui.
Je vous appelle parce que j'ai une proposition commerciale offerte à la Poste.
Oui.
Vous allez voir, c'est assez enthousiasmant.
Oui.
Il se trouve que je suis. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans une poste et ça a pas mal changé. Et j'ai vu que vous aviez maintenant un espace boutique. Qui
oui.
est vachement bien avec tout un tas de produits. J'ai même vu des gilets fluorescents et tout, quoi.
Oui.
Et moi, je peux avoir des brosses à dents à très bon marché.
Oui.
Je me disais que ça pourrait être un très bon produit à mettre dans les boutiques de la Poste.
D'accord. D'accord. C'est quand même assez éloigné. Moi, je vous propose d'appeler la direction de l'enseigne, c'est-à-dire la direction des bureaux de poste.
Oui, d'accord.
C'est eux qui pourront se positionner hein, sur ce type de proposition.
Sinon, j'avais une autre idée, mais je vous la soumets comme ça, juste pour discuter. Mais
oui.
des produits frais, style légumes et fruits. Qu'il y ait un espace dans la boutique qui soit produits frais. Comme ça, les gens, parce qu'ils font un peu la queue quoi, dans les bureaux
oui.
de poste. Et pendant qu'ils font la queue, ils prennent leur ticket. Et en même temps, ils vont faire leurs courses. Quoi. Un petit peu comme une épicerie, en fait.
Alors là, ça part. Franchement, voyez avec eux. Je pense que c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, maintenant je m'avance peut-être, mais ce genre de produit dans les bureaux de poste, je pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Hein.
Moi, je pense que c'est l'avenir, quoi. Mais bon, je vais les appeler.
Voyez avec eux.
Ok, merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Pourquoi pas? C'est pas si stupide, les idées de Renaud Lambert. On pourrait aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est une sorte de... On a une supérette, un supermarché, puis au bout, il y a la Poste, par exemple. Ou bien alors, c'est un sex shop. On vend des vidéos porno, des sex toys, et puis au bout, hop, on achète des timbres, pourquoi pas. Et tout ça, c'est la Poste. Et c'est la commercialisation. Vous savez, il faut faire face à la concurrence. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est la concurrence.
si vous voulez pas lutter, c'est obligé, c'est obligatoire, c'est la concurrence. Je ne sais pas pourquoi, on dit ouverture à la concurrence, ça veut dire qu'il faut lutter contre la concurrence, et on doit lutter contre la concurrence. Ah, il y a quelque chose d'un peu international dans la concurrence. Attention, hein, si la France se défend pas, les étrangers vont... Alors, hop, il faut, ça c'est une obligation. Et puis, il y a les directives européennes. Ça, ça veut dire on n'y peut rien. Alors, on est désolé, on est bien d'accord avec vous, on aurait bien voulu que ça continue comme ça, la poste, le service public, avec le... Non, non, il y a les directives européennes. C'est les deux raisons qu'on avance, c'est les deux seules raisons qui sont avancées et qui marchent depuis des années. Et on dit, ah oui, c'est vrai, ah bah oui, bah dis donc, il y a les directives européennes, alors là... Il faut se plier des directives européennes. Si on n'est pas d'accord avec l'Europe, vous savez ce qui nous arrive, hein. On est pour Auschwitz. Ah oui, on nous l'avait dit. En mai 2005, souvenez-vous, on nous l'avait dit. Donc c'est quand même des choses assez intimidantes. Donc voilà pour les directives européennes. Et puis il y a la concurrence. Sinon, encore une fois, on est archaïque, populiste, stalinien. Enfin, vous connaissez bien cette chanson. Elle commence un peu à grincer. La chanson, elle commence un petit peu à grincer. On retrouve Philippe Fouillou de Sud PTT.
Ce qui se passe dans les bureaux de poste, c'est qu'il y a l'épée de Damoclès du chiffre d'affaires qui est présente en permanence là jusqu'au plus profond des bureaux de poste. Les agents sont soumis à une pression commerciale. Alors ça se traduit dans un bureau de poste lorsqu'un usager se présente pour exemple envoyer une lettre à 55 centimes, la démarche que doit faire le postier au guichet, c'est essayer de lui proposer le produit le plus cher.
Alors par exemple, si j'arrive, moi je dis bonjour madame.
Bonjour madame.
Je voudrais poster cette lettre, elle pèse le poids minimum.
Je voudrais envoyer ce courrier, s'il vous plaît.
Donc a priori ça coûte un timbre, 55 centimes, qu'est-ce qu'on va me répondre?
Alors théoriquement, il va essayer de deviner votre besoin. Est-ce que c'est urgent, est-ce que ce n'est pas urgent?
En lettre
5 c'est quoi la différence?
C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver l'élément qui lui permettra de proposer le produit le plus cher.
Je ne sais pas, vous voulez l'envoyer pour qu'elle arrive quand, la lettre demain, en chrono, je ne sais pas.
Bah, qu'elle arrive plutôt
normale, 21 euros pour demain.
21 euros ?
Oui.
On va proposer le produit premier, qui est le chronopost, qui coûte 22 ou 21 euros, si mes souvenirs sont à peu près bons. Après, il y a la lettre recommandée qui est à 5 euros, la lettre suivie qui doit être autour de 2 euros.
Parce que la personne, elle compte vraiment sur ce courrier, ça va lui faire très plaisir. Je veux être sûr que ça arrive. Mais bon, entre 55 centimes et 21 euros, je préfère...
Envoyez-la en lettre suivie, alors seulement. Lettre suivie, ça coûte 2,10 euros. Et là, vous avez un petit numéro. Vous pouvez vérifier si elle est bien arrivée.
C'est beaucoup de pertes ?
On sait jamais, quoi. Je veux dire, y a le risque zéro, ça n'existe pas. Mais...
D'accord.
Mais bon, après...
Moi, je suis pas suspicieux a priori, mais si la poste met au point des trucs suivis, ça veut dire que vous perdez les courriers, non?
C'est normal qu'on ait plein de produits adaptés. Le risque zéro, ça n'existe pas nulle part. Donc après, sur la masse de courriers que la poste transmet, il peut y avoir une perte. Imaginons que ce soit la vôtre, moi je suis là pour vous expliquer tout ce qui existe.
D'accord.
Après, si vous voulez l'envoyer comme ça, il n'y a aucun problème. Ça arrivera bien, je pense.
Les chiffres même de la poste nous disent qu'une lettre ordinaire, en général, arrive à 85% à J+1, c'est-à-dire J+1 le lendemain. Mais là, on est dans du domaine où on n'est plus dans le service public, on est vraiment dans le domaine commercial parce qu'il faut vendre le produit.
Mais voilà, après, on a plein de produits, quoi.
Ah, d'accord.
Il y a des moments où il faut être assuré quelque part. Bon, si vous voulez vraiment le savoir, ça, c'est un bon compromis.
Donc, il faut commencer par une démarche qui est la désinformation pour arriver à ce qu'on veut, à ce que veut la poste, c'est-à-dire refourguer le produit qui rapporte.
Chronopost, c'est remis demain.
Ouais, je vais prendre ça.
Christian Cozard, ancien directeur général délégué de La Poste.
Alors maintenant, les postiers. Ben, les postiers, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours vendu des choses. Ils ont bien sûr vendu des timbres. Ils ont vendu des choses. Donc, pour le postier, il n'y a pas antinomie, il n'y a pas difficulté entre les services marchands et le service public. Il y a complémentarité.
Vous avez compris ce qu'il dit, Christian Cozard, le facteur, vous croyez que c'est le gars qui arrive avec sa musette de facteur, et puis dedans, il y a des lettres. Non, il vend des tas d'autres choses. Et ça fait un bout de temps que cette commercialisation, donc, des produits de la Poste est en route. Et vous le savez bien, puisque un certain nombre d'entre vous fréquente ces bureaux de poste. Peut-être pas tout le monde. Par exemple, disons le président de Dexia, Oui, vous avez entendu parler de Dexia. Eh ben, le président de Dexia, il va partir, il s'appelle Axel Miller, et la banque Dexia, vous le savez, a été renflouée par les États belges, luxembourgeois et français à hauteur de 6,5 milliards. Eh bien, Axel Miller, le président du directoire de Dexia, en cas de résiliation par Dexia du contrat, je cite, qui le lie à la banque, il peut prétendre à une indemnité égale aux rémunérations fixes et variables et autres avantages correspondant à une période de 24 mois, soit 2 ans de salaire. Cela représente une indemnité de, vous y êtes, 3,7 millions d'euros. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est en train de parler de la privatisation de la Poste et que c'est uniquement ça, cette privatisation. C'est la pression des marchés financiers. C'est la pression de ce qu'il faut, qu'on peut appeler sans abus la tyrannie de l'actionnariat. On est très très loin du facteur qui passe de maison en maison et des timbres qu'on va en vélo acheter à la poste.
Alors il y a le classique carnet de timbres, là aussi c'est pareil, l'objectif n'est pas de vendre un carnet de timbres à l'usager qui en a besoin, c'est essayer de lui vendre une enveloppe timbrée. Bien entendu, là-dessus, la Poste gagne encore de l'argent. Alors, si c'est qu'une enveloppe timbrée, c'est pas encore suffisant, il faut aussi lui vendre le paquet de 10 enveloppes.
C'est quel poids votre lettre?
C'est
courrier ordinaire, ouais. Voilà, c'est ça qu'on sent.
Lettre suivie.
Et là, ça coûte 2,10 €.
D'accord.
Lettre 20 grammes.
Voilà. Moi, je pense que je vais prendre lettre normale. Hein.
Ah bah, c'est comme vous voulez, mais on les vend par 10. Hein.
Il n'y a plus de timbre?
Ah bah si, autrement, on a fait par la queue. Hein.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et bon, et si on essaye de batailler, comment ça se passe?
Ah bah la logique, c'est qu'effectivement, on va vous proposer d'aller au guichet si vous voulez absolument avoir un timbre, et au guichet, vous rencontrerez inévitablement maintenant une file d'attente. Parce qu'il faut savoir que les bureaux de poste de Paris sont rénovés avec juste 2 guichets d'ouvert. Sur des bureaux de poste où autrefois, ils étaient 4 ou 5 positions de travail. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ceux qui veulent vraiment avoir une opération spécifique qui ne rentre pas dans le cadre commercial de la Poste, ils vont faire la file d'attente.
Vous prenez un carnet de timbre, ça sert toujours les carnets de timbre, vous passez directement à la boutique.
Je ne sais plus trop, moi.
Un timbre, ça se garde tout le temps, je veux dire, derrière, vous écrivez, vous mettez un timbre.
Mmh. Non, mais un carnet.
Vous voyez ce que je veux dire?
Comme ça, je n'ai pas besoin de parler à la
file. Bah, ça me paraît logique, vous passez directement là, c'est plus rapide. Ouais. Après, ça vous voit.
Encore.
Je dis ça, bien sûr, attendez. Okay. En plus, on a des jolies. Hein. De sortir.
Et des tout simples, tout rouges, vous n'avez pas?
Des tout simples, tout rouges. Eh ben non, à la boutique, j'ai pas, moi.
Ah bon, d'accord. Donc, je vais prendre ça, ouais. Merci.
À l'intérieur même du timbre en tant que tel, essayer de lui vendre ce qu'on appelle les timbres philatéliques, c'est-à-dire des timbres qui ne sont pas rouges que tout le monde connaît habituellement, mais lui vendre un timbre philatélique avec une caractéristique particulière, parce que dessus, il y a aussi un moyen pour la boîte de gratter du fric.
Autrement, à propos, vous avez un livret A?
Non.
Vous n'avez pas de livret A?
Non.
Oh, c'est le moment de faire l'ouverture.
C'est
4%. Alexandra, ce monsieur n'a pas de livret A.
Terrible, monsieur.
Alors là.
Ouais, j'ai l'impression que je suis vraiment archaïque, moi.
4% au niveau clair. Vous êtes client de la banque de déjà ou pas?
Mais par contre, s'il y a des petits gâteaux comme ça, je vais revenir. Hein.
Oui, comme quoi, on a bien fait de parler. Hein. Bah ouais. C'est vrai, c'est autrement. Bon,
on va d'abord faire ça et après, je vais vous prendre en main.
Vous n'avez pas à me recommander. Hein,
bon, très bien.
Christian Cozard, ancien directeur général délégué de la Poste.
Nous sommes fiers de servir toutes les populations, donc nos clients, nos usagers aussi, pourquoi pas, on a le service public aussi. Le mot usager n'a rien de choquant. Eh bien, on a défini un autre concept, c'est les gens. Les gens qui viennent à la Poste. Voilà. Nos clients, nos usagers, les Français, les étrangers, les riches, les moins riches, les gens. Voilà notre clientèle.
Quand on aide la confiance à se développer, elle se transmet à tous. Et c'est toute la société qui avance. C'est pour cela que la Poste change, pour faire grandir la confiance. La Poste et la confiance grandit.
Lorsqu'une personne se présente pour un changement d'adresse, le guichetier a consigne de essayer de vendre par tous les moyens le pack MNA, ma nouvelle adresse, qui comporte toute une kyrielle d'options. Sachant, il faut quand même le savoir, qu'il existe toujours l'ordre d'expédition classique. La différence entre les deux est quand même de 10 euros, à savoir que le pack MNA coûte 32 euros et le pack ordinaire 22.
J'aurais besoin d'un formulaire pour changement d'adresse, pour suivi de courrier.
C'est un pack qui dure 6 mois.
Ma nouvelle adresse.
Voilà, c'est ça.
Mais combien
et
ça coûte
le déposer 32.
Il n'y a pas un truc moins cher aux alentours de 20 euros?
Il y a le changement d'adresse normal.
Ouais, c'est ça, je vais prendre ça. Ouais.
Ouais, mais il faut le faire tout de suite. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez l'acheter aujourd'hui, faire signer votre conjoint.
Ouais, non, je vais faire 10 euros de différence, c'est quand même pas mal.
Après, c'est vous qui jugez. Mais la différence, c'est que vous avez là-dedans les enveloppes toutes prêtes. Je peux vous l'ouvrir, enfin bon, c'est marqué.
Non,
5 cartes et tous les documents à faire. Donc, vous n'oubliez rien. Donc,
vous privilégiez celui-là, en fait.
Effectivement, maintenant, il faut privilégier ça. Ah, ben, c'est-à-dire qu'après, c'est vous qui voyez. Hein,
non, mais je vais prendre d'autres. Je vais prendre le moins cher.
Attends, je ne sais pas si on en a encore, je vais demander à ma collègue.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre d'expédition ordinaire à 22 euros se trouve actuellement non pas à la disposition des guichetiers, ils ne peuvent même pas, quasiment pas le proposer puisqu'ils ne l'ont pas sous la main. Ils sont obligés de se déplacer soit dans le bureau du chef d'établissement, soit dans le bureau d'un cadre quelconque. Et lorsqu'ils se déplacent pour aller chercher ce document, ils sont obligés d'expliquer et de justifier pourquoi ils n'ont pas réussi à vendre le pack à 32 euros, le fameux pack MNA.
Là, je vous explique. Donc là, et il faudra le déposer, c'est marqué 5 jours avant.
Il y a même des bureaux où ce formulaire n'est plus disponible. On va vous demander de le télécharger sur Internet.
On m'a dit qu'il y avait un truc à 20 euros.
22 euros. Sur Internet, ça, uniquement.
Ah, sur Internet?
Ouais, hein. Vous pouvez le faire sur Internet. Risque là, mais vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas le kit complet.
Ouais, enfin, bon, comme tout le monde, le pouvoir d'achat, c'est un problème en ce moment.
Vous pouvez le faire sur Internet. Ouais, vous avez Internet, vous pouvez le faire.
Vous n'avez pas le formulaire ici?
Ah non?
Non, vous le faites directement sur Internet.
Ah d'accord.
Me voilà sur le site de laposte.fr et je cherche mon formulaire. Je me rends de l'espace réservé aux particuliers. À part une page, on est proposé en assez gros, découvrez cette semaine les services en ligne de réexpédition et de garde. Je clique. Voici que s'ouvre une page avec, pour unique proposition, le pack ma nouvelle adresse. Coût 32 euros. Je reviens donc en arrière pour essayer de trouver l'autre option, l'option à 22 euros. Et je ne trouve rien. Je reviens donc sur mes pas, je clique, on me propose à nouveau le pack ma nouvelle adresse, je regarde de plus près et je vois qu'il est possible d'accéder à un site dédié à la réexpédition du courrier. Je clique. S'ouvre une nouvelle fenêtre intitulé « Réexpédition et garde du courrier pour les particuliers ». Une proposition est formulée, « Pack, ma nouvelle adresse, 32 euros ». Je reviens en arrière, je clique sur « Outils pratiques », aucune information. Je reviens en une, je clique sur « Envoyer ou recevez du courrier », toutes les offres. Envoi courant, envoi sécurisé, service de réexpédition et de garde du courrier, déménagement, pack, ma nouvelle adresse. Je reviens en arrière, aucune autre possibilité. Je reviens en une, me propose un nouveau lien, je clique, aucune information. Je clique sur « Outils pratiques », je clique sur « Envoyer ou recevez du courrier », je reviens en une, envoi courant, toutes les offres. Service de réexpédition et de garde du courrier, envoi sécurisé, s'ouvre une nouvelle page, pack, ma nouvelle adresse. Coût 32 euros. Mais après tout, le guichetier n'est pas tenu de faire ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qui se passe s'il ne respecte pas les objectifs ou il y a des moyens de coercition?
Alors là, la solution qu'a trouvée la Poste, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le visiteur mystère. À savoir que le visiteur mystère, c'est une personne de la Poste, un postier, alors en général des cadres, qui se présente comme étant un usager ordinaire et qui demande un service tout à fait ordinaire. Et ce qui les intéresse à ces visiteurs mystères, c'est voir comment est déclinée donc la méthode commerciale, si elle est bien déclinée, et si au bout du compte, l'agent, le guichetier qui tient sa position de travail, a bien fait son travail en termes de vendeur.
Bonjour, je voudrais poster une lettre, s'il vous plaît.
Oui. Voilà. Courrier ordinaire?
Ouais.
55.
Vous ne proposez pas d'autres tarifs?
Ben non, je vous ai demandé courrier ordinaire, vous m'avez dit oui.
Et si j'étais visiteur mystère, vous seriez embêté ou pas?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Normalement, vous devez proposer aussi un chronopost.
Ben, soit le chronopost, soit le suivi, soit le recommandé. C'est vrai.
Merci. Vous me feriez taper sur les doigts?
Très. Vous êtes un visiteur mystère?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Vous voulez que je vous cherche un responsable?
J'aimerais bien, ouais.
Suite à cela, donc le visiteur mystère ne s'arrête pas là. Il demande immédiatement d'avoir le chef d'établissement pour, effectivement, avoir un entretien individualisé avec l'agent.
Bonjour madame.
Oui, visiteur mystère.
Bon, voilà, je demande simplement un affranchissement. Il me semblait que c'était clair que maintenant on devait proposer d'autres services, comme on se casse un peu la tête pour les mettre au point. Voilà, on n'a pas parlé de chronopost ou quoi que ce soit. Donc, je voulais savoir si c'est arrivé jusqu'ici ou non, quoi.
Ouais, j'ai juste demandé si c'était un envoi ordinaire et c'est vrai que comme il m'a dit oui, bah, je sais juste coller un timbre.
Vous connaissez le principe quand même.
Ah oui, bon ça.
On n'est pas de la première. Hein.
C'est pas parce que c'est la fête qu'on respecte pas les consignes.
Ils sont jamais satisfaits, bien entendu, parce qu'il faut continuer, même toujours s'améliorer. L'optique n'est pas de faire d'être un professionnel, l'optique est de vendre. On ne demande pas à un agent aujourd'hui d'avoir une connaissance professionnelle de son outil de travail en tant que tel, c'est-à-dire connaître la réglementation et la réglementation en termes de courrier, la réglementation de services financiers. On lui demande avant tout de vendre.
J'annule ou pas la
vignette ? Non, mais vous n'embêtez pas, madame. En fait, je ne suis pas du tout visiteur mystère, mais je vais prendre. Je suis journaliste. Je voulais vérifier que ça existait bien, un visiteur mystère.
Oui, oui. Non, vous avez.
Vous aviez l'air assez livide quand même.
Bah oui, parce qu'en général, on se fait disputer. On a des consignes, effectivement.
Bah, vous inquiétez pas, je suis désolé d'avoir fait une petite frayeur.
Ça, c'est pas gentil.
Bonne journée,
au revoir.
Vu à la poste, donc, cette scène. Par contre, la suivante, peu de chance que vous l'y voyez.
Tout, tout, tout.
Bonjour madame, je voudrais poster cette lettre, s'il vous plaît.
Bonjour monsieur, oui, donc un chronopost, ça vous fera 21 €, monsieur.
Attention madame, je suis visiteur mystère. Souvenez-vous que votre mission est une mission de service public. Pourquoi donc me proposer un service à 21 € lorsque vous savez pertinemment que vous pourriez me proposer un timbre à 55 centimes ?
Oh, oui, je suis désolée, j'oublie toujours. Merci visiteur mystère. Tout, tout, tout.
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettant les mois. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde s'évite avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand tombe la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui. Hein. Tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent, mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur. Et lorsque vous restez quelques jours sans courrier, chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y a rien. Tiens, voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien facteur, et à demain.
Merveilleux Bourville qui renvoie à une époque où la notion de droit à la communication n'existait pas et où se présentait comme une évidence, comme quelque chose de normal. Voilà qu'aujourd'hui, à travers ce projet, cette lente marche ou cette privatisation rampante que nous évoquons aujourd'hui, eh bien, c'est bel et bien ce droit à la communication qui est mis à mal. Parce que là, on sait à quel point cette course au profit, cette poussée sur le profit, vers le profit, altère et ces choses évidentes, ces valeurs évidentes qui semblaient si évidentes il y a encore peu. Alors, on retrouve Philippe Fouillou.
Cette logique commerciale, elle amène naturellement à toutes les dérives possibles et imaginables. Là, encore récemment, nous sommes intervenus au niveau de la direction de Paris, parce que dans un bureau de poste, il faut savoir qu'il y a deux types de colissimo. Il y a le colissimo ordinaire et le colissimo recommandé. Eh bien, chaque établissement, pour essayer de faire du chiffre d'affaires, avait tout simplement retiré des guichets l'alias colis ordinaire et leur disait, voilà, ça vous dit aux clients, aux usagers, que ça n'existe plus, qu'il faut insister sur le colis Simo recommandé.
C'est de la vente forcée, c'est de la vente forcée, ça.
C'est vraiment la vente forcée. On est obligé d'intervenir au niveau de la direction de Paris pour que ces pratiques cessent. Bon. On en arrive à ce genre de dérive régulièrement. Et une anecdote, m'est arrivée il y a quelques années de ça, où un collègue d'un bureau de poste m'avait appelé en disant, voilà, on a un souci, local. Il m'a expliqué le contexte. Ce bureau de poste, sur son tableau de marche, je dirais, était largement en retard par rapport à certains d'autres bureaux de poste, et qu'ils avaient un challenge sur un produit spécifique, qui était l'enveloppe à 250 grammes, Chronopost, à l'étranger. Et il y a un agent qui était parti dans une dérive, à savoir qu'un usager s'était présenté pour envoyer une thèse à l'étranger, et cet agent avait proposé de lui diviser en 4 la thèse, parce qu'elle faisait 1 kilo, pour lui permettre donc de mettre ces 4 morceaux de thèse dans des enveloppes qui correspondaient à un poids de 250 grammes.
Alors qu'elle aurait pu le faire dans la même...
Alors qu'il aurait pu le faire dans un produit Chronopost, mais qui n'était pas, à l'époque, ne faisait pas partie du challenge.
Votre histoire de Chronopost à 250 grammes, qui sont les seuls qu'on souhaite vendre, et donc d'une thèse qu'on va adapter au produit qu'on souhaite vendre, ça fait un peu penser à l'histoire du tailleur de Fernand Reynaud, qui va voir son tailleur, qui lui a fait un costume qui lui tombe pas bien dessus. Et en fait, le tailleur va déformer Fernand Reynaud pour qu'il soit adapté au costume. Finalement, c'est à l'usager de s'adapter à ce qu'on souhaite lui vendre.
C'est ce que désire la Poste. Hein. La Poste ne veut pas servir, n'est plus dans une logique de servir l'individu, mais elle veut surtout que l'individu s'adapte à ce que veut lui proposer, lui vendre la Poste. On n'est plus du tout dans la même logique. C'est transformé véritablement, structurellement parlant, la Poste en termes de logique de service public, en logique purement marchand, dans lequel effectivement c'est l'usager qui doit se plier aux desiderata de la boîte.
Bonjour, monsieur le tailleur. C'est moi que je suis venu il y a 2 jours chercher mon costume. Vous vous souvenez de moi? Je reviens vous voir aujourd'hui parce qu'il y a les copains. Ils m'ont dit ton nouveau costard. C'est pas qu'il te va mal, il te va même bien. Seulement là, il y aurait comme un défaut, ça nous étonnerait pas. Entrez dans mon cher ami. Eh bien, on peut dire que je vous ai fait un beau costume à vous, hein. Et puis du beau tissu. Vous avez vu ça? Tâtez-moi ça. Qu'est-ce que c'est comme tissu, ça? C'est du nylon éponge. Il pleut, ça absorbe tout. Vous êtes content du tissu, hein? Ça, le tissu, je suis content. C'est parce que les copains, ils m'ont dit ton costume, en regardant bien. Là, il y a comme un défaut. Et la doublure. Vous avez vu cette doublure, la même que la mienne? C'est du crêpe de Chine mélangé avec la satinette de Maubeuge. Et le crêpe de Chine, faut payer le voyage. Vous n'êtes pas content de la doublure? Si, le tissu, tous les boutons, tout est pas... C'est marcé les copains. C'est ce que c'est quand on a un nouveau costume, tourne-toi, tout, viens, tourne. Le dos est pas tant, mais là, il y a comme un défaut. Il n'y a pas de défaut, monsieur. J'ai jamais fait un défaut à un costume, moi, monsieur. Je connais mon métier, moi, je suis tailleur. Ça fait 25 ans que je suis au carreau du temple, monsieur. J'ai jamais remboursé un costume. Jamais. Et j'en rembourserai jamais. Vous voulez que je vous dise ce que c'est, ça, monsieur? C'est la coupe Melba. Au début, ça surprend, puis après, on s'y fait. Vous vous tenez mal, monsieur. Voilà la vérité exacte. Vous vous tenez mal, monsieur. Vous vous tenez comme un diable. Vous êtes là. Vous êtes pas l'homme que diable, approchez-vous. Alors, regardez-vous devant la glace. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est là que ça dépagueule. Je vous arrange ça. Vous êtes avachi. Relevez les épaules, là. Surtout la gauche. Un peu plus. Ah, un quart de poids. Encore un peu plus. Voyez? Tout de suite. Quand vous avez relevé l'épaule. Moi, j'en reviens pas. C'est vrai, enlevant l'épaule. Ah oui, mais alors, à droite. Le défaut de gauche, il a été à droite. C'est parce que vous vous tenez mal. Bougez pas l'épaule gauche. La droite, ramenez-la. Sans bouger l'épaule, là. Vous voyez, tout de suite. que là, elle part en... Elle part en brioche, là, vous voyez. C'est pas équidistant, ni équilatéral. Je m'en fous de pas équidistant. Non, je dois prendre là. Faites ce que je vous dis, je connais mon métier, non, alors. Là, bougez pas les épaules. Ouais. Là, écrasez-vous sur l'enfant. Là. Il tombe pas bien, ce costume. Où c'est que vous voyez un défaut, là-dedans, vous Ça faut reconnaître que si je me tiens comme ça, tout est mieux. Vous dites ça avec une telle autorité. Et puis le fait est que si je me tiens comme ça, tout est mieux. Je suis navré de vous avoir dérangé, monsieur le tailleur. Je me tiendrai toujours comme ça. Excusez-moi. Au revoir, monsieur le tailleur. Je suis en train de penser. Les gens, quand ils vont me voir passer dans la rue, on va dire celui-là, moi, hein, il a la chance d'avoir trouvé un bon tailleur. Réussir un si beau costume sur un gars aussi mal foutu.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Philippe Fouillou, à Valérie et à Sylvie. Et encore toutes les excuses de Renaud Lambert à la dame qui a cru voir lui tomber dessus un visiteur mystère. Ça me rappelle d'ailleurs l'homme des vœux. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. L'homme des vœux, Bartissol. Le gars qui est arrivé à l'improviste dans un magasin pendant que vous étiez en train de faire vos courses. Et si vous étiez en train d'acheter une bouteille de Bartissol, et ou si vous aviez une capsule de Bartissol, eh bien, l'homme des vœux Bartissol comblait vos vœux. Je sais pas ce qu'il vous offrait, mais c'était un personnage mystérieux. C'était rigolo, c'était de la réclame. Là, c'est pas rigolo du tout. Et c'est quand même aussi de la réclame, mais c'est pas rigolo du tout. Et des personnages comme ça, il y en a pas mal dans tout un tas de services qui sont là, évidemment, pour coller la pétoche au petit personnel. Un clin d'œil spécial de Renaud Lambert à Yves Bartel. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org, et vous pouvez sur la-bas.org réécouter l'émission avec le professeur Lordon. Ça le fait rigoler qu'on l'appelle professeur Lordon. En fait, oh, il a été prof, c'est vrai. Frédéric Lordon sur la crise financière, l'émission de mardi. Et puis, une nouvelle que je vous avais réservée pour un beau jour, comme aujourd'hui, le film Chomsky et compagnie, que vous avez, auquel pas mal d'entre vous ont souscrit avec beaucoup de succès. Eh bien, grâce à vous, le film va sortir en salle. Eh oui, le 26 novembre prochain, Chomsky et compagnie va sortir dans une vingtaine de salles en France. Eh oui, je vous donnerai des précisions. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et puis, autre chose encore. Demain à 15h, l'émission Là-bas, si j'y suis, se déplace non pas à Deauville, non pas à Cannes, mais à Nanterre pour le Forum social des quartiers populaires, dont c'est la deuxième édition. Forum social des quartiers populaires, les 3, 4, 5 octobre 2008 à Nanterre. C'est au stade Jean Guimier, parc André Malraux à Nanterre. Pour y accéder, il faut prendre le RER A, Nanterre préfecture, et sortir par la place Allende, stade Jean Guimier, parc André Malraux. C'est très facile. Et là, pendant ces 3 jours, 3, 4, 5 octobre, il y aura des thèmes, des forums, villages associatifs, de la culture de quartier, du cinéma, des expos et des théâtres collectifs autour du mot d'ordre. Il faut que ça cesse. Ça risque d'être assez chaud, au moins dans les débats. On va parler de l'apartheid urbain, on va parler du racisme et du sexisme, on va parler de l'islam criminalisé, on va parler des violences policières, on va parler du chômage programmé et de l'éducation au rabais. C'est quelques-uns des thèmes qui seront traités au cours de ces trois journées et qui seront évoqués là-bas demain, dans là-bas, à Nanterre, à la technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Claudine Lapersonne. C'est Coyenne Guyen et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette émission modeste et assez géniale, il faut bien le dire, assistée de Charlotte Perry. Et c'est Agnès Lebot qui attend vos messages au répondeur de la base J'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il va être 16h. Il est 16h sur France Inter. À demain donc à Nanterre pour le forum social des quartiers. Venez, il y aura l'orchestre, le MAP, le ministère des Affaires Populaires. Et ça va chauffer. À demain donc, 15h. Il est 16h, je vous le répète. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boisselet.